Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré les films de Costa Gavras en 1988. J'avais 16 ans. J'allais depuis peu au cinéma toute seule avec ma cousine adorée Maude. Et j'ai vu La main droite du diable au cinéma. Je doublais ma seconde, je me sentais ignorante et inutile. J'ai eu alors le sentiment de faire partie du monde et d'avoir quelque chose à y faire. Imposer le devoir d'humanité. Alors je suis retournée le voir une deuxième fois pour tenter de comprendre non pas le racisme, mais la séduction du bourreau. L'année d'après, c'était Music Box. À l'époque, l'extermination des Juifs d'Europe était passée sous silence dans les programmes de l'éducation nationale, et mon père avait été déporté. J'ai compris que la colère qui m'envahissait parfois et me suffoquait au point de paraître idiote et dérangée venait du silence et de l'effacement de la mémoire que la société tout entière imposait. J'ai aussi compris que les assassins ne portaient pas de signes extérieurs de leur monstruosité, et qu'ils étaient des êtres humains comme les autres, et même qu'ils étaient tendres et à l'écoute de leurs enfants, tandis qu'ils pouvaient jeter des bébés contre les murs et leur fracasser le crâne sous prétexte de leur judaïcité. Avec mon père, nous avons beaucoup parlé de cette normalité, de la banalité du mal que découvre Hannah Arendt au procès d'Eichmann à Jérusalem en 1963. Nous avons aussi beaucoup parlé des preuves que le personnage laisse derrière lui, alors qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il se fait passer pour un résistant et un anticommuniste afin de rejoindre les États-Unis. Pourquoi laisser des preuves dont on sait que sa propre famille, ici sa fille, les retrouvera forcément un jour? Nous nous interrogions longuement et nous comparions avec des exemples véridiques que nous connaissions parmi les amis de mes parents. Ainsi, beaucoup qui se croyaient de purs chrétiens découvraient au décès de leurs parents qu'ils étaient juifs et que leurs parents le leur avaient caché toute leur vie au point de tenir parfois des propos à la limite de l'antisémitisme pour les protéger d'une éventuelle nouvelle extermination. Nous en avions conclu qu'il laissait des traces pour réparer ou du moins se racheter dans le cas des bourreaux, ou pour faire connaître l'origine de la violence et les traumatismes fantômes dont souffraient leurs enfants. Ainsi, lorsque Costa Gavras est venu à La Flèche en avril 2018, j'ai choisi de passer en sa présence Music Box. En aparté, je lui ai demandé: pourquoi laissent-ils toujours des traces, des preuves de leurs crimes? Parce qu'ils ont honte? Parce qu'ils veulent se confesser? De sa belle voix toujours indignée, il m'a répondu non. C'est parce qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. La séance de questions a commencé. J'étais bouleversée et nous n'en avons plus reparlé. Dévastée, je comprenais enfin que ces hommes tuaient et torturaient pour le bien de l'humanité. J'avais pourtant assez analysé et écrit sur Amen pour comprendre d'une part le rôle de la révolution industrielle et donc du libéralisme dans l'extermination des Juifs, mais aussi le silence ahurissant et scandaleux des représentants de la morale aussi bien chrétienne que laïque, dont le mot d'ordre supposé est « Aime ton prochain comme toi-même ». J'ai donc repris mon analyse d'Amen, film majeur de Costa Gavras, sorti au cinéma en 2002, méprisé par les critiques, mais grand succès populaire. Amen est ainsi présenté sur la quatrième de couverture du DVD. Un officier SS et un jésuite refusent de dire Amen à l'horreur. Allociné en propose le résumé suivant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, Ricardo Fontana, tente d'informer le pape Pie XII et les alliés du génocide des Juifs organisé par les nazis dans les camps de concentration. Le film, produit par Claude Berry, a coûté cher. Il a été tourné en partie en Hongrie et en langue anglaise par des acteurs non locuteurs natifs de l'anglais. Le film se revendique aussi bien de la part de Grimbert, co-scénariste, que de Costa Gavras, comme faisant partie du cinéma spectaculaire. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est du spectacle. Il ne faut pas donner au mot spectacle une connotation négative, insiste Costa Gavras, qui défend ici la liste de Schindler, de Spielberg. J'ai souvenir de foule devant les cinémas. Il n'y aurait eu personne si le film n'avait pas été signé Spielberg. Costa Gavras défend le cinéma spectacle et revendique sa valeur pédagogique. C'est évidemment ce qui va être immédiatement reproché au film. On trouve ainsi écrit dans Le Monde la forme compassée supposée accessible à tous. Mais les critiques lui reprochent surtout que tout le monde parle anglais. Cet espéranto a le défaut d'anéantir l'arme principale des hommes d'église, le pouvoir cinglant du verbe, toujours dans Le Monde. Ce à quoi Jean Roy, dans L'Humanité, ajoute. Et dans le même temps, tout le monde parle un anglais parfait dans ce film, à 100% de production française. Que dire ? Choisir de faire un film en langue anglaise lorsqu'on n'est pas un natif signifierait donc forcément l'appauvrissement du jeu et de la langue. C'est oublier que Costa Gavras est un véritable Européen, polyglotte. On le voit sur le making-of du tournage s'adresser, par exemple, à Ulrich Tukur, acteur allemand, en anglais et en français. L'acteur lui répond également dans les deux langues et semble même choisir l'une ou l'autre en fonction de la sensibilité de ce qu'il a à dire. Ses remarques concernant la langue du film, langue européenne par excellence, interrogent dans la mesure où elles excluent tout étranger de parler une autre langue que la sienne, mais surtout d'en maîtriser le pouvoir cinglant du verbe. Les critiques citées n'ont apparemment pas encore compris que l'anglais a remplacé le latin, ancienne langue des clercs. Il y a deux manières d'envisager ce film, remarquait Jean-Claude Grimbert. On peut en faire un truc austère et presque universitaire ou un grand spectacle hollywoodien. Il fallait un truc entre deux. Cet entre-deux est le choix de Costa Gavras. Faire un cinéma spectacle, engagé politiquement, qui pose des questions philosophiques, un film européen et qui s'adresse à tous. Comme dans la plupart de ses films, il pose un regard critique et politique sur l'histoire. À travers le regard d'homme aux prises avec l'histoire, avec un grand H. Ici, il s'attaque de front à la question de la morale, aux questions universelles du bien et du mal, à travers l'interdit fondamental « tu ne tueras point » et à travers cinq figures humaines « Kurt Gerstein, le docteur, Ricardo, le pape et les alliés ». Il s'attaque aussi au déni proféré sans cesse après-guerre par les témoins. Nous n'avons rien vu, nous ne savions pas.
My name is Stefan Lux. I am Jewish. The Jews are being persecuted in Germany and the world doesn't care.
Costa Gavras démontre que tout le monde savait, que beaucoup de gens de toutes obédiences ont fait et dit quelque chose quand les hommes de pouvoir n'ont rien fait, mais surtout rien dit. Le pouvoir du verbe et le silence du verbe est donc au centre du film, dont chaque mot retentit au milieu du silence assourdissant de la machine de mort en marche, le train. On verra combien le film est hanté par des sons et des trains qui passent sans cesse. Amen est donc bien l'entre-deux, un film spectacle, mais aussi un film exigeant dont la lecture induit plusieurs niveaux de lecture pour avoir accès au sens poétique caché du film. Amen se présente comme une adaptation du Vicaire de Rolf Ockhout. Pièce de théâtre, écrite en 1959 et jouée pour la première fois en 1963. La pièce a été elle aussi à l'origine de violentes polémiques. La quatrième de couverture résume ainsi la pièce et ses questionnements. L'œuvre pose un problème historique et moral, sur lequel pèse la mort de 6 millions de Juifs et où est mis en cause le silence de Pie XII. En se taisant, Pie XII n'a-t-il pas failli à sa mission de vicaire du Christ? Et l'Église n'a-t-elle pas manqué à sa mission de charité? Mais au-delà de la problématique chrétienne, le drame du vicaire, dans sa complexité vivante, soulève une question universelle, celle du conflit entre un appareil de pouvoir spirituel et l'engagement humain total. La pièce est très longue, avec 42 personnages, sans compter les récitants. Les personnages Gerstein et Ricardo constituent le fil rouge de la pièce, mais n'en sont pas réellement les personnages principaux. Le docteur y est une figure multiple. Le pape est extrêmement bavard et explicite sur ses choix. Des déportés y apparaissent et témoignent. Costa-Gavras et Grimbert ont réussi le tour de force de construire une trame narrative plus simple et plus crédible, comme par exemple un pape laconique, tout en conservant intact la force dramatique, le ton de la pièce et son questionnement essentiel. La pièce, écrite seulement 14 ans après l'ouverture des camps, est un cri qui appelle rudement les choses par leur nom. Selon Erwin Piscator, dans l'avant-propos, qui montre qu'une histoire écrite avec le sang de millions d'innocents ne peut être frappée de prescription. Elle attribue aux coupables leur part de culpabilité. Elle rappelle à tous les intéressés qu'ils eurent la faculté de se décider et qu'en effet, ils se sont décidés, même en ne se décidant point. Le vicaire dénonce tous les mensonges selon lesquels un drame historique n'est plus possible en tant que drame de décision, sous prétexte que les décisions ne seraient plus possibles à l'homme pris dans l'anonymat. Elle montre l'homme en tant qu'il agit lorsque dans son acte il est le vicaire d'une idée. C'est de cette liberté que chacun possède, que chacun possédait même sous le règne du nazisme, qu'il nous faut partir si nous voulons surmonter notre passé. Nier cette liberté signifierait aussi nier la culpabilité que chacun a assumée en n'utilisant pas sa liberté pour se déclarer contre l'inhumanité. Les critiques ont reproché au film la liberté prise par rapport à la pièce, pièce qui pourtant avait fait scandale. Et lors de la présentation du film à Berlin, l'auteur a défendu avec vigueur Amen, alors qu'un journaliste allemand accusait le film de trahir et la pièce et la cause des Juifs. Aucun cinéaste allemand n'a jamais eu le courage de l'adapter, a-t-il dit. Et le message de la pièce « Ne détournez pas les yeux quand on déporte votre voisin et qu'on l'assassine » est véhiculé avec une force extraordinaire.
Even in death you can recognize a family. They die clinging together.
Amen ose aborder la mise en scène du génocide des Juifs d'Europe. Représentation interdite par Shoah de Claude Lanzmann, qui n'utilise aucun document d'époque et interdit toute représentation parce que la Shoah fut et demeure sans image, écrit Gérard Waschkmann. C'est même une chose sans trace visible et inimaginable, l'objet invisible et impensable par excellence, afin que s'impose à nous l'absence de toute image des chambres à gaz. Dire ce n'est pas banaliser l'horreur, c'est au contraire prendre au sérieux l'expérience concentrationnaire, déclare Georges Didi Huberman dans Images malgré tout. D'autres fictions ont également abordé la question de la représentation du génocide des Juifs. La liste de Schindler, de Spielberg, est ainsi souvent comparée au film de Costa-Gavras. De la même façon, spectaculaire et clairement fictive, un homme qui a vraiment existé nous est présenté dans sa lutte contre l'inhumanité. De la même façon, le personnage est ambigu. Il considère comme nécessaire et juste la déportation des Juifs et l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous acceptions les discriminations, mais pas les persécutions, argumente Gerstein au pasteur Dibelius dans Amen. Pourtant, Amen est soutenu par les détenteurs de l'indicible, quand la liste de Schindler est conspuée. Que reproche-t-on à Spielberg ? Tout particulièrement la scène de la douche. Les femmes et les enfants de la liste arrivent à Auschwitz par erreur. On les fait se déshabiller, on les tond, et les femmes sont entassées dans les douches pour la désinfection. Spielberg montre qu'elles savent ce qui les attend, la mort. Or, les pommes de douche ne sont pas fausses, et c'est bien de l'eau qui en coule et non du gaz. Quand le film sort, beaucoup se bouchent le nez, prennent l'air écœuré. Pourquoi des images aussi obscènes ? Pourquoi rajouter du suspense et des rebondissements dramatiques ? Pourquoi de tels mensonges ? Or, et c'est bien là la question, la scène de la douche est strictement exacte sur le plan historique. Cela s'est vraiment passé comme cela. Les rescapés de la liste en témoignent dans les témoignages additionnels du DVD. La réalité dépasse la fiction et l'imagination. Comment Costa-Gavras réussit-il à ne pas être accusé de mensonge et d'obscénité alors qu'il prend de nombreuses libertés avec la pièce dont il s'inspire, qu'il s'éloigne souvent du personnage réel qu'était Gerstein, du moins ce qu'en dit sa biographie, L'espion de Dieu, la passion de Kurt Gerstein, de Pierre Geoffroy, et que, par-dessus tout, il reprend le personnage fictif du jésuite Ricardo. Tout d'abord, il décide, avec son co-scénariste, d'être du point de vue des meurtriers et des témoins et de montrer l'industrialisation du crime. Ensuite, il ne montre pas, ou presque, les camps d'extermination et il choisit de montrer la déportation industrielle à travers l'image du train. Enfin, la dénonciation de la culpabilité de tous et la possibilité d'empêcher le crime, ou du moins de le dire, on l'a vu, détourne fortement l'attention. La mise en scène s'inscrit ainsi dans la fiction poétique. Ainsi, les scènes de train qui passent sans cesse métaphorisent et dénoncent matériellement la déportation massive et inhumaine. Les wagons à bestiaux fermés avancent vers Auschwitz. Les wagons à bestiaux ouverts indiquent l'absence, la mort sans tombeau, la disparition de l'homme. On ne voit d'ailleurs pas d'hommes, uniquement des trains qui vont et viennent d'Auschwitz. Même remplis, fermés, les hommes ici conduits à la mort comme des bêtes à l'abattoir sont déjà à l'état de fantôme. Les wagons ouverts sont faux historiquement. Le nazi ne s'amusait pas à faire fonctionner le fret à vide. Mais il s'agit ici d'inscrire le film dans la fiction poétique. Ces bêtes humaines qui passent sont étrangement belles et fascinantes. Son vacarme envahit l'espace, surenchéri par une musique au violon. Le train de marchandises est vide, les portes de ces wagons laissées grandes ouvertes. Lit-on dans le scénario. Le train, la bête humaine, est la figure métaphorique et matérielle de la révolution industrielle, et donc ici de la mort industrielle, nommée « mort miséricordieuse » par les nazis, qui appellent les hommes qu'ils tuent des unités. Jusqu'à 20 000 unités par jour sont gazées à Auschwitz en 1942, rappelle le film. Alors que l'élément perturbateur du film est la découverte par Gerstein de l'assassinat en masse dans les chambres à gaz, rien ne nous sera montré, ni des hommes qui y meurent, ni de l'intérieur des chambres à gaz. Rien à voir. On ne verra que le visage des témoins qui regardent par l'œilleton, et plus particulièrement Gerstein, le seul à éprouver de l'horreur face à ce qu'il voit, le seul à reculer quand les autres semblent apprécier le spectacle, à peine Eus semble moins à l'aise, précise le scénario. On ne voit qu'une porte et des hommes qui s'en approchent pour regarder à l'intérieur à travers l'œilleton. Aucune parole n'est échangée. La scène se passe dans un grand calme, seul un crissement aigu se fait entendre et des bruits de machines qui perturbent le silence des hommes. Mêlés à ces bruits, la trame musicale grave et sourde continue, précise toujours le scénario. Les hommes apprécient le spectacle des unités qu'ils exterminent comme on tue des rats proprement et efficacement, à moindre coût. Il m'arrive de penser que le nazisme est la forme extrême du libéralisme. Devant la chambre à gaz, alors que les bruits de train crissent, Gerstein voit et se tait. Pourquoi ce silence ? On voit les mots bruire sous le front de Gerstein, mais il se tait. Et son silence est un acte, une acceptation. Il n'y a pas 10 personnes au monde qui ont vu ce que vous venez de voir, lui susurre le docteur qui ne cesse de parler, lui, et qu'il inscrit dans le silence complice l'euphémisation et la dépersonnalisation. Dépersonnalisation si bien racontée par Robert Antelme dans L'espèce humaine. Gerstein ne cessera de vouloir parler ensuite. Mais son inaction et son silence originel rendront son témoignage incroyable. « Personne ne vous croira », lui affirme le pasteur Dibelius.
There aren't 10 people alive who have seen what you just saw.
Ce qui coule par la brèche d'Auschwitz, c'est la foi. Toute la foi du monde. Un point, c'est tout. Anonyme, 1988. Le film soutient que si le pape avait parlé, il n'aurait peut-être pas sauvé les juifs, mais il aurait sauvé la foi et la morale chrétienne. Mais Amen dénonce aussi le silence complice des alliés. Si les alliés avaient parlé, avaient agi, accueilli, recueilli les réfugiés, ils auraient sorti les témoins et tous les hommes de l'inconcevable et de l'irreprésentable. Costa Gavras réussit le pari risqué de donner à voir l'irreprésentable, la machine de mort nazie et sa philosophie apocalyptique, en faisant le choix que propose Robert Antelme dès l'ouverture de son livre « L'espèce humaine ». Il était clair désormais que c'était seulement par le choix, c'est-à-dire encore par l'imagination, que nous pouvions essayer d'en dire quelque chose. Plutôt que de nous montrer la mort au moment où les meurtres sont commis, il nous montre des hommes en uniforme, rutilants ou dégustant des mets fins et rares. Plutôt que de nous montrer l'horreur, il nous met face au langage nazi, qui parle d'unité à détruire. Plutôt que de montrer l'horreur, il met le spectateur face à l'indifférence abyssale du silence, à son indifférence, face à la perte possible du verbe et par là même, face à la perte possible de l'humanité dans un délire autodestructeur apocalyptique. Auschwitz a posé dans des termes crus la question de la disparition de Dieu et de la morale, de la différence entre le bien et le mal, de la possibilité de l'homme d'être à la fois un bon mari et un bon père et un tortionnaire, comme la plupart des nazis, comme le rappelle Georges Bataille. Comme vous et moi, les responsables d'Auschwitz avaient des narines, une bouche, une voix, une raison humaine. Ils pouvaient s'unir, avoir des enfants. Auschwitz est le fait, est le signe de l'homme. L'image de l'homme est inséparable, désormais, d'une chambre à gaz.
God lets his children be devoured.
I want to understand.